Bonjour, je m'appelle Jean-Guillaume Santi et il est l'heure du monde. Aujourd'hui, vous le savez et nous vous en avons déjà parlé à l'heure du monde, de l'immobilier au marché locatif, le logement connaît une grave crise en France et un secteur est particulièrement touché, le logement social. L'an dernier, le nombre de demandeurs d'habitation à loyer modéré atteignait le record de 2,6 millions de Français. Et les annonces récentes de Gabriel Attal qui aimerait favoriser les logements intermédiaires destinés aux classes moyennes risquent bien de rallonger cette liste d'attente.
Vous le savez, d'ici 2025, toutes les communes soumises à la loi SRU doivent posséder au moins un quart de logements sociaux sur leur territoire. Nous proposerons et nous mettrons en débat d'ajouter pour une part les logements intermédiaires accessibles à la classe moyenne dans ce calcul des 25%.
Alors, pour bien comprendre les ressorts de cette mauvaise passe du logement social, qui sont d'ailleurs pour certains antérieurs à la crise immobilière actuelle, je reçois aujourd'hui Claire Anet, journaliste au Monde, en charge des questions de logement et d'exclusion. Bonjour Claire.
Bonjour Jean-Guillaume.
Alors Claire, on va essayer de comprendre avec toi d'où vient cette crise du logement social que connaît actuellement la France. Pour commencer, est-ce que tu peux nous donner une définition ? C'est quoi un logement social ?
C'est une habitation à loyer modéré avec un loyer qui est en général inférieur de 40% à un loyer du privé. C'est accessible à des familles avec des personnes avec des revenus faibles ou moyens. Et actuellement, c'est à peu près 18% des ménages qui se retrouvent en logement social. Ils sont gérés par des bailleurs sociaux ou qu'on appelle aussi organismes HLM qui peuvent être publics ou privés et qui sont chargés à la fois donc de les gérer et aussi d'en créer des nouveaux, en général en les construisant, mais aussi parfois en achetant et en les réhabilitant, avec pour fond les loyers qu'ils perçoivent et surtout des prêts de long terme ainsi que des aides de l'État et des collectivités.
Ok, donc maintenant qu'on a posé cette définition, est-ce que tu peux nous dire comment se manifeste concrètement la crise actuelle ?
En fait, les organismes HLM n'arrivent pas à faire face aux besoins qui sont de plus en plus importants parce que les gens ont de plus en plus de mal à se loger pour différentes raisons. Les prix de l'immobilier ont explosé, donc c'est plus compliqué d'acheter qu'avant, surtout que c'est plus compliqué d'obtenir un crédit. Les loyers du privé ont aussi augmenté plus vite que les revenus. On a aussi un problème de disponibilité des logements sociaux. On n'en construit pas suffisamment et de moins en moins. Et le turnover y est de plus en plus faible parce que justement, les gens peinent à trouver des alternatives derrière.
Et donc, on en arrive à ce chiffre que je donnais en introduction de cet épisode, 2,6 millions de dossiers, c'est ça ?
Oui, oui. Avec ce manque de turnover, on a des listes qui s'allongent et des délais d'attente aussi. Il faut par exemple attendre jusqu'à 10 ans en Île-de-France pour obtenir un logement social.
Et ça, ça peut créer des situations sociales qui sont assez compliquées à gérer derrière, des situations de pauvreté assez grandes.
Oui, on a déjà des gens qui se retrouvent coincés dans leur logement actuel qui peut être beaucoup trop petit pour la taille de la famille, qui peut être aussi insalubre. Ils peuvent être la proie de marchands de sommeil. On a aussi énormément de gens qui se retrouvent en hébergement d'urgence. Il n'y a jamais eu autant de places. Il y en a à peu près 200 000 actuellement. Et malgré ce nombre très élevé et ce coût très important, il y a plus de 8 000 personnes, dont plus de 2 500 enfants chaque soir qui font des demandes au 115 et qui n'obtiennent pas de place.
Et ces personnes fragiles dont tu nous parles, Claire, qui se retrouvent dans des situations financières difficiles faute de logements sociaux adaptés disponibles, des associations comme la Fondation Abbé Pierre en rencontrent de plus en plus. Et selon son délégué général Christophe Robert, le profil des personnes qui viennent demander de l'aide à son organisme est plus diversifié qu'avant. Et il comprend aujourd'hui davantage de publics issus de la classe moyenne, dont il nous détaille certains profils. Notre productrice Cyrielle Bedu l'a interrogé.
Des personnes rencontrent des difficultés pour physiquement se séparer alors qu'ils sont séparés. On rencontre des personnes qui vont avoir des difficultés à trouver un logement à la taille de la famille, par exemple quand la famille s'agrandit, ce qui peut avoir des conséquences. Alors, peut-être quand on a des petits-enfants, ils peuvent être dans la même chambre, mais quand on arrive à être trois enfants à 16, 18, 20 ans dans la même chambre, évidemment, c'est pas satisfaisant. Et on voit que ce surpeuplement est reparti à la hausse en raison de la cherté du logement. Donc en fait, pour rester pas trop loin du lieu de travail ou aller côté du lieu de travail, des personnes vont se serrer ou dépenser trop, avec beaucoup de conséquences sur les autres dépenses qui sont tout aussi essentielles. Enfin, peut-être une dernière situation que nous avons vue évoluer depuis quelques années, c'est le phénomène de la précarité énergétique. Des personnes qui ont des petites ressources, qui sont dans des logements qui sont mal isolés, et avec la flambée des prix de l'énergie, eh bien, n'arrivent plus à se chauffer, avec des conséquences sanitaires, sociales, d'isolement social assez importantes. On compte à peu près 12 millions de personnes en situation de précarité énergétique. Et là aussi, ça appelle des politiques publiques beaucoup plus ambitieuses sur le pouvoir d'achat des ménages et leur confort de vie, bien évidemment.
Ok, donc on voit bien les conséquences concrètes de cette crise du logement social et comment elle se manifeste. Moins de construction, peu de logements disponibles, beaucoup de demandes. Mais alors, est-ce que tu peux nous expliquer les origines de cette crise ? Quand et comment est-ce qu'elle a commencé ?
On peut situer ça en 2018. Cette année-là, le gouvernement décide de baisser les aides au logement qui sont les APL et qu'il est chargé de verser. Sauf qu'il n'a pas envie que ça pèse trop sur les plus pauvres. Donc, il demande aux bailleurs sociaux de compenser cette baisse des APL en réduisant leur loyer. Donc, les bailleurs sociaux perçoivent moins de loyers, ils ont moins de ressources pour construire du logement social.
D'accord, donc le modèle économique de ces organismes chargés de gérer les habitations à loyer modéré, il a été impacté parce qu'ils ont dû compenser cette baisse des APL du gouvernement.
Oui, oui, et en plus, il y a eu d'autres difficultés pour eux. C'est que l'État a aussi diminué les aides à la pierre qu'il versait pour aider à construire du logement social. Et que par ailleurs, les bailleurs sociaux étaient confrontés à des fortes hausses des coûts, c'est-à-dire à la fois le prix du foncier, c'est-à-dire des terrains pour construire qui augmentaient, le prix de l'immobilier aussi quand les bailleurs sociaux rachetaient des logements pour en faire des logements sociaux. Il y avait aussi le coût de la construction qui a augmenté, notamment le coût des matériaux avec la guerre en Ukraine. Et enfin, ce qui a été un peu une sorte de coup de grâce, c'est que le taux du livret A a augmenté.
Et alors, j'aimerais qu'on s'arrête, Claire, sur ce point spécifique. En quoi la hausse du taux du livret A, qui est le livret d'épargne préféré des Français, elle a une incidence sur la production de logements sociaux ? Le lien ne semble pas évident.
En fait, le livret A, c'est un produit d'épargne qui sert largement à financer le logement social. Et comme avec l'inflation, les banques centrales ont essayé de lutter contre en montant leurs taux, ça a eu pour conséquence d'augmenter les taux auxquels les banques prêtent au grand public. Donc ça augmente les taux des prêts immobiliers, mais ça a aussi un effet mécanique qui fait que le taux du livret A a augmenté. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle pour les ménages quand ils épargnent, mais en revanche, c'est plutôt une mauvaise nouvelle pour les bailleurs sociaux, puisque le taux auquel eux-mêmes empruntent, il dépend du taux du livret A. Donc plus le taux du livret A est élevé, et plus l'emprunt coûte cher aux bailleurs sociaux, donc ça complique encore leur possibilité de construire du logement social.
C'est-à-dire que l'argent qui est sur mon livret A, il est prêté par la Caisse des dépôts à des bailleurs sociaux et à un taux déterminé par le taux du livret A. Donc si le taux du livret A monte, en gros, ça va coûter plus cher aux bailleurs sociaux d'emprunter de l'argent pour construire des immeubles, c'est ça ?
C'est ça. C'est comme pour les emprunts classiques, quand le taux est plus important, on peut moins emprunter et on a plus de mal à faire des projets immobiliers.
Ok, et donc tout ce manque à gagner que tu nous décris là pour les bailleurs sociaux, entre la compensation de la suppression des APL, la baisse des aides à la pierre, la hausse du taux du livret A, les coûts élevés du foncier et des matériaux de construction, tout ça fait donc que les bailleurs sociaux ont moins d'argent pour investir dans de nouveaux logements.
C'est ça, ils peuvent moins investir pour construire des nouveaux logements ou en acheter, d'autant moins qu'ils doivent aussi investir pour la rénovation énergétique de leur parc existant, et ça c'est des montants colossaux. Les bailleurs sociaux, ils en appellent vraiment au gouvernement parce qu'ils disent qu'on peut vraiment changer la situation. On est arrivé en 2016 à l'année où on n'avait jamais autant construit de logements sociaux. Ça s'est vraiment effondré depuis. Mais on a su construire beaucoup de logements sociaux, notamment depuis 2000 et la loi SRU.
Alors, on va s'y intéresser, Claire, à cette loi SRU qui est une loi incontournable en matière de logement social. SRU, c'est l'acronyme de Solidarité et Renouvellement Urbain. Alors, quand est-ce qu'elle a été adoptée et pourquoi elle a permis, tu le disais là à l'instant, aux bailleurs sociaux de construire dans les années 2000 et 2010 ?
Alors, cette loi, c'est la loi relative à la solidarité et au renouvellement urbain. Elle a été adoptée sous le gouvernement socialiste de Lionel Jospin en 2000. Elle a imposé aux communes qui sont situées en zone urbaine un quota de 20% qui a depuis été porté à 25% de logements sociaux, avec des amendes pour ceux qui ne respectent pas cette loi, c'est-à-dire qu'il y a des objectifs qui sont fixés pour 3 ans pour atteindre progressivement en fait, ce taux de 25% de logements sociaux.
Et quel est son objectif ?
Alors l'objectif, il est double. C'est à la fois de mieux répartir les logements sociaux sur les territoires et puis au sein des villes, de créer aussi une certaine mixité spatiale avec des gens pauvres, des gens plus riches.
Faire en sorte d'éviter qu'il y ait des communes ghettos et des communes très riches. C'est ça, toutes les communes doivent produire du logement social.
Oui, que chacun joue son rôle, fasse sa part.
Et cette loi, elle a eu un vrai impact.
Elle a eu un impact très important. Ça a vraiment permis de booster la création de logements sociaux. On a à peu près 35 000 communes en France. Il y en avait environ un millier qui étaient en retard sur leurs objectifs SRU. Et bien, dans ce millier de communes qui ont été construits, la moitié des logements sociaux qui ont été produits depuis 2000.
Pourtant, Claire, toutes les communes n'ont pas joué le jeu. Certaines ont refusé et refusent toujours d'appliquer les quotas de construction de logements et elles préfèrent payer les amendes.
Oui. La loi n'est pas suffisamment appliquée. Après, il faut quand même bien voir que les communes qu'on dit récalcitrantes, elles sont très peu nombreuses. La plupart ont vraiment joué le jeu. Mais c'est vrai que ça ne va pas assez vite et que beaucoup ont appelé, notamment dans le contexte actuel, à renforcer la loi SRU pour vraiment créer plus de logements sociaux. Et ça a beaucoup surpris quand Gabriel Attal, dans son discours de politique générale, a annoncé qu'au contraire, il voulait réformer la loi SRU dans un sens qui va plutôt aider les maires récalcitrants.
Et on en revient donc à l'annonce de Gabriel Attal à l'Assemblée le 30 janvier dernier lors de son discours de politique générale, Claire.
Aussi, je vous annonce que nous allons donner aux maires la main pour la première attribution dans les nouveaux logements sociaux construits sur leur commune. C'était une mesure attendue par les élus locaux. Nous avons aussi engagé un chantier, une réflexion pour faire évoluer le logement social pour qu'il réponde davantage aux classes moyennes. Vous le savez, d'ici 2025, toutes les communes soumises à la loi SRU doivent posséder au moins un quart de logements sociaux sur leur territoire. Nous proposerons et nous mettrons en débat d'ajouter pour une part les logements intermédiaires accessibles à la classe moyenne dans ce calcul des 25%.
Ces annonces, elles ont été de vraies surprises pour le monde du logement HLM. Pour comprendre pourquoi, revenons sur les deux mesures annoncées par Gabriel Attal. La première concerne les maires qui auront donc désormais la main sur la première attribution de logements sociaux. Ça veut dire quoi ?
Alors, on ne sait pas vraiment comment ça va être répliqué, mais en tout cas, Emmanuel Macron avait déjà dit cet été qu'il voulait justement redonner la main aux maires dans les attributions. Ce que je peux vous dire, c'est qu'actuellement, le système prévoit qu'il y a à la fois l'État, Action Logement, qui est l'organisme qui collecte le 1% patronal, et le maire et le département qui peuvent réserver des logements sociaux et qui peuvent proposer des candidats pour ces logements. Et le maire a déjà une voix prépondérante dans les commissions d'attribution. Donc l'idée, ce serait d'aller encore plus loin qu'actuellement.
Et la deuxième mesure, Claire, celle qui a fait le plus de bruit, elle concerne les logements dits intermédiaires. Ils sont donc réservés aux classes moyennes. Gabriel Attal dit vouloir les comptabiliser avec les logements sociaux pour atteindre ce fameux objectif de 25%. Alors, qu'est-ce que ça signifie ?
Je vous rappelle d'abord ce que c'est que le logement intermédiaire. C'est du logement entre le logement social et le logement privé. Il y a des financements de l'État et en contrepartie, les loyers sont inférieurs de 10 à 15% au loyer du privé. Accessible sous conditions de ressources, mais vu les montants concrètement, c'est plutôt destiné aux classes moyennes supérieures. Et l'idée de Gabriel Attal, c'est que ces logements intermédiaires contribuent à atteindre les quotas de logements sociaux qui ont été prévus par la loi SRU.
Mais alors, pourquoi vouloir les faire rentrer, les logements intermédiaires, dans ce compte des logements sociaux ?
Alors, c'est une décision qui peut sembler étonnante parce qu'il ne s'agit pas de logement social, mais ça s'inscrit dans la politique générale de Gabriel Attal de vouloir donner une certaine priorité aux classes moyennes dans les politiques du gouvernement.
Mais donc, en comptabilisant le logement intermédiaire dans le logement social, ça offre une voie de contournement de la loi à tous ces maires qui ne souhaitent pas la respecter, qui ne veulent pas de mixité sociale dans leur commune. C'est un peu leur offrir une solution sur un plateau à tous ces maires, généralement issus de communes plutôt riches d'ailleurs.
Oui, ils peuvent faire du logement intermédiaire à la place des logements sociaux qu'ils auraient dû faire. Ça leur évite d'accueillir trop de pauvres, de faire de la mixité. En plus, c'est plus facile financièrement de créer du logement intermédiaire dans le contexte compliqué actuel que du logement social. Donc, il y a une vraie crainte que la production de logement social, qui est déjà très à la peine en ce moment, continue de diminuer, alors qu'il y aurait plutôt besoin de la renforcer dans cette période où il y a des demandes qui n'ont jamais été aussi élevées.
Et justement, nous en avons discuté de ce sujet avec Emmanuel Cosse, qui a été ministre du Logement en 2016 sous la présidence de François Hollande et qui est désormais la présidente de l'Union sociale de l'habitat. Alors, l'Union sociale de l'habitat, ça fédère l'ensemble des organismes HLM. Et Emmanuel Cosse s'interroge, comme de nombreux acteurs de ce secteur, sur le choix du gouvernement de prioriser la construction de logements intermédiaires destinés à une certaine catégorie, à un certain pan de la classe moyenne. Elle nous explique ça au micro de Cyrielle Bedu.
Déjà, le sujet classe moyenne, la classe moyenne, elle démarre où ? Parce que si elle démarre à 1 800 euros de revenus par personne, c'est en fait le public du logement social. Est-ce qu'elle démarre à 3 000 euros de revenus par personne ? Là, on est sur une autre histoire, qui est une autre classe moyenne. Mais la vraie classe moyenne, elle n'est pas dans ces niveaux-là de salaire si on regarde le revenu médian des Français. Et aujourd'hui, en effet, quand le gouvernement parle de logement des classes moyennes, il parle par exemple de faire du logement intermédiaire. Donc, c'est du logement qui est à loyer inférieur au prix du marché, mais qui est en fait bien plus cher que le logement social. C'est un loyer qui est autour de 17 euros du mètre carré, donc qui fait un T4 à plus de 1 300 euros quand même, et qui rend les choses très compliquées pour beaucoup de ménages. Et pour donner une idée, il y a seulement, on pense qu'il y a 3% des demandeurs en logement social qui peuvent prétendre à rentrer dans un logement LLI. Donc, on voit que c'est pas beaucoup. Et c'est ça, en fait, la difficulté. C'est que on ne traite pas, en fait, de la masse. C'est comme si, en fait, la classe moyenne inférieure, parce que c'est de ça dont on parle, elle n'était pas, en fait, la cible des politiques, alors même que c'est cette population, mais qui est très importante en France, qui n'arrive pas à se loger. Et donc, qu'est-ce qu'on a à offrir à cette population ? Et le schéma de leur proposer de se loger extrêmement loin dans le travail et donc d'avoir des problèmes de mobilité, de coût de l'essence, c'est des choses qu'on a déjà entendues, notamment dans la crise des Gilets jaunes. Donc, c'est vraiment ça la question. J'ai écouté le discours de politique générale du Premier ministre. Je m'attendais dans ce discours à ce qu'il parle du logement. On est en pleine crise. Il dit « je vais changer la loi SRU pour y intégrer le logement intermédiaire parce que les maires n'arrivent pas à construire ». C'est une demande qui n'a jamais été portée par l'ensemble des acteurs du logement social, ni même par les associations d'élus, qui demandent d'autres choses mais qui ne demandent pas ça. Donc oui, c'est extrêmement grave en fait ce qui est en train de se passer. On pense qu'en plus c'est extrêmement dangereux de modifier cette loi dans le contexte politique actuel où le gouvernement n'a pas de majorité clair à l'Assemblée nationale, et on l'a vu sur la loi immigration. Et moi, je leur ai dit, en commençant à ouvrir cette brèche, on sait d'où on démarre, et peut-être qu'à la fin d'une discussion législative, il n'y aura même plus de loi SRU.
Ok Claire, on a vu l'ampleur de cette crise et ses origines, souvent d'ailleurs du fait du gouvernement, hein, que ce soit au niveau de la suppression des appels ou bien ces propositions de Gabriel Attal. Mais tout de même, alors que la pauvreté explose, notamment dans les quartiers prioritaires, est-ce que des solutions peuvent exister pour endiguer cette crise du logement social ?
Alors le gouvernement a fait des annonces. Il a annoncé 1,2 milliard pour la rénovation énergétique des logements sociaux. Alors, c'est presque le montant de la réduction des loyers qui compense la baisse des APL. Mais enfin, c'est des montants qui sont très nécessaires pour rénover les logements sociaux. Les besoins sont énormes, même si les bailleurs sociaux sont plutôt un peu en avance par rapport à l'ensemble du parc de logements.
Ok, donc 1,2 milliard d'aides qui compensent le geste qu'on avait à la base demandé aux bailleurs sociaux pour compenser la baisse des APL dont tu nous parlais. Mais alors, est-ce que ce geste-là, il sera suffisant pour endiguer la crise du logement social dont on parle depuis le début de cet épisode ?
Ben clair, non. En revanche, on pourrait imaginer d'autres mesures. La plupart sont d'ailleurs demandées par les bailleurs sociaux. On pourrait essayer d'améliorer le turnover dans le logement social. On pourrait, par exemple, renforcer l'accession sociale à la propriété en développant le bail réel solidaire. Ça, c'est un système en fait qui permet, sous condition de ressources, d'acheter un appartement sans le terrain qu'il y a dessous. Et donc, ça permet d'avoir des prix souvent 30% moins chers qu'un achat dans le neuf classique. On pourrait aussi continuer à développer l'encadrement des loyers du privé, ce que font déjà plusieurs villes. Par ailleurs, et c'est une des premières demandes des bailleurs sociaux, on pourrait moins les ponctionner pour compenser cette baisse des APL. Et on pourrait aussi renforcer la loi SRU, ce qui inciterait les communes à se mobiliser pour faire du logement social de façon plus intensive.
Sachant que c'est possible, de grandes villes ont réussi à atteindre les objectifs de cette loi.
Paris, qui est par définition la ville où à la fois le foncier est rare et les coûts de l'immobilier prohibitifs, et qui était très en retard, est en passe d'atteindre son objectif fixé par la loi SRU de 25% de logements sociaux. Donc il semblerait que quand on veut, on peut.
Merci Claire.
Merci Jean-Guillaume.
Et si vous voulez en savoir plus sur la crise du logement en France, vous pouvez retrouver tous les articles, toutes les analyses de Claire Année et de sa collègue Véronique Chocron sur lemonde.fr. L'heure du monde est votre podcast quotidien d'actualité à retrouver tous les matins du lundi au vendredi. Merci de votre fidélité et à demain.